Nova Bookbox, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Sur l'escalator qui le conduit à la projection de son film détective, Jean-Luc Godard, très calme, ne sait pas ce qu'il attend. Attention, une tarte à la crème en pleine figure. Il a bien pris la chose, l'assaillant s'enfuit. Deux heures plus tard, commentaire.
C'est un vieux gag.
Vous croyez que la tarte à la crème elle était dirigée contre vous, par les intégristes?
Non, ça rappelle des films muets.
Le film, en noir et blanc, muet, dure une douzaine de minutes. Tourné en 1927 sous la direction d'un certain Clyde Brockman, La bataille du siècle, classique miniature du cinéma burlesque portée par la bonhomie gaffeuse de Laurel et Hardy, démarre par une scène de boxe, où l'un des deux combattants, joué par Stan Laurel, surnommé Chief Moll en raison de son physique de crevette anémique, remporte le match par inadvertance. Le lendemain, son entraîneur, Oliver Hardy, lui souscrit une assurance et place une peau de banane sur sa route pour simuler un accident dans l'espoir de toucher un petit pactole. Or, c'est à cet instant qu'un malheureux livreur de tarte à la crème glisse sur le fruit. S'ensuit une enfilade de crème pâtissière écrasée sur le nez, les fesses, les chaussures vernies ou la redingote des passants qui passent et des figurants qui se nettoient la figure dans cette rue devenue théâtre d'un raz-de-marée à haute teneur calorifique. La séquence historique aurait nécessité 4000 tartes à la crème. Or, peu après, Stan Laurel déclare en interview « On a voulu faire en sorte que chaque tarte ait un sens. » 193 ans plus tard, un curieux personnage fait son apparition. C'est l'écrivain français Pierre Sange, mon invité du jour, qui signe une drôle d'enquête moelleuse intitulée « Projectiles au sens propre » à propos des 4000 sens possibles de cette avalanche de crème fouettée sur biscuit discobol proprement publiée en janvier dernier aux éditions Verticales. Une tarte équilibre de la terreur, une tarte de longue frustration emmagasinée, une tarte de fierté mal placée, une tarte de surenchère, une tarte de sport et de fair-play, une tarte de manœuvre érotique, une tarte d'amitié bourrue, une tarte de conflit de voisinage, une tarte de maintien de l'ordre, une tarte de promotion des opprimés, une tarte d'argument définitif, une tarte faux pas au dîner qui déclenche des guerres, une tarte d'art pour l'art, une tarte de gestes gratuits à la limite de l'insignifiant. Le tout, par exemple, au cours d'une série infinie de vengeance et de contre-vengeance, elle aurait pu être une malédiction, elle est aussi une partie de plaisir, ça nous donne une idée de la complexité du genre humain, comme si on en avait besoin. De quoi permettre à Pierre Sange, l'auteur érudit d'Acab Sekel, roman pour lequel il fut honoré sur Nova en 2015 du prestigieux prix de la page 111, de faire mousser sa passion très sérieuse pour les listes, l'humour rentré et le comique de répétition sans indigestion. Au soleil de midi, et si on commençait par le dessert? Bonjour, c'est Richard Guettet, bienvenue dans la Nova Bookbox, le jukebox littéraire de Radio Nova, que vous retrouvez chaque dimanche de midi à 13h, depuis déjà 9 saisons. Bonjour, Pierre Sange.
Bonjour, Richard Guettet.
En préambule de la conversation savoureuse qui nous attend pendant une heure, j'aimerais préciser à nos auditeurs, à nos auditrices, que nous sommes certes séparés de 3 mètres, comme le prévoit le protocole sanitaire, quelque part un peu semblable à ces nobliaux qui doivent se lever et mettre une petite minute à se passer le sel avant de retourner s'asseoir pour dîner. Mais surtout, j'aimerais leur préciser que j'ai déposé devant nous, entre nous, à équidistance exacte de nos estomacs respectifs, une tarte à la crème. Vous la voyez ?
Oui, je la vois, oui.
Une tarte à la crème que j'ai commandée ce matin dans l'une des pâtisseries de la porte de Clignancourt. Pierre, pourriez-vous décrire cette tarte à nos auditeurs avec toute la force d'évocation de ce don d'observation propre à votre métier d'écrivain ?
Eh bien, en temps normal, cette tarte serait discoïdale. Elle l'est presque, mais elle est coupée en deux et chaque moitié est séparée de l'autre d'une distance de sécurité d'un mètre qui laisse la place à beaucoup de crème pâtissière, une espèce d'étalement qui fait le lien. Alors, On suppose que cet étalement est symboliquement une sorte de, d'espoir de retour à la normale. C'est un biscuit léger sur lequel il y a abondamment de crème et beaucoup plus de crème que de biscuits. Et plus le temps passe, plus je parle et plus la crème foisonne.
Merci Pierre. À tout moment, d'ici la fin de cette émission, nous sommes libres, vous et moi, de nous saisir de cette tarte à la crème pour attaquer l'autre ou tout simplement pour la manger. Qui frappera le premier? Qui s'en mettra plein la panse? Quel est le sens de cette tarte posée en plein milieu d'un studio de radio? Le suspense est à son comble. C'est une vérité connue depuis le début, depuis toujours. Les pitres sont des sages, revêtus d'un costume aux couleurs de fruits confits. Écrivez-vous dans votre ouvrage « Projectile au sens propre ». Pierre Sange, quelle est l'origine de votre appétit pour la tarte à la crème au sens cinématographique, au sens accessoire, emblématique du cinéma burlesque? Votre livre est-il né tout simplement de votre visionnage du film « La bataille du siècle » de Laurel et Hardy? Et plus spécifiquement encore, de cette phrase prononcée par Stan Laurel en interview, on a voulu faire en sorte que chaque tarte ait un sens?
Alors, comme je suis quelqu'un de l'écrit plus que de la vision, c'est la phrase qui a précédé la tarte. Au commencement était le verbe et ensuite la tarte est venue ensuite. C'est un entretien qui a été reproduit dans le magazine Positif il y a quelques années. Un entretien de Stan Laurel en 1929, je crois, pour un journal américain. Il fait l'éloge de sa bataille de tarte dans ce film, La bataille du siècle, en expliquant qu'il a voulu faire en sorte que ce soit déjà la plus grande bataille de tarte à la crème de toute la jeune histoire du cinéma. Il y a des milliers de tartes se balancent d'une figure à l'autre. Et il ajoute, ne croyez pas qu'on ait fait les choses à la légère, hein, tout était réfléchi, on a voulu faire en sorte que chaque tarte ait un sens. Et cette idée de la signification accordée, non pas à l'ensemble des tartes, mais à chacune des tartes dans son détail, ce soin apporté avec beaucoup d'intelligence et de précision par Stan Laurel, a priori un pitre, à quelque chose d'aussi insignifiant qu'une tarte, ça m'a beaucoup touché et je me suis dit qu'il fallait surtout pas laisser passer une aussi belle aubaine.
Comment est-ce qu'on construit, non pas le gâteau, mais le livre à partir de là?
On commence par écrire sans savoir si la digression autour d'un thème pareil va nous mener au bout de 3 pages, au bout de 30 ou de 300. Voilà, j'accumule des pistes, je suis des pistes, je pioche à droite et à gauche, j'essaye de faire mousser encore une fois ce foisonnement de crème. Et une fois que j'ai le sentiment d'avoir assez de matière, je travaille un petit peu plus dans l'autre sens, par réduction. On est dans de la cuisine toujours. Je réduis, je corrige, je coupe et je combine. Et je fais une sorte de montage de tous les éléments en essayant de faire en sorte cette fois que ces éléments construisent sinon une histoire. Parce que ce livre n'est pas vraiment narratif, mais en tout cas un raisonnement un peu burlesque sur la tarte.
Dans la littérature, quels écrivains, avant vous, ont su manier avec dextérité dans leur roman cette pièce de pâtisserie? Qui en a fait un élément clé d'une intrigue ou d'une scène d'un livre?
Ah, je n'ai pas d'idée. Tiens, j'ai chou blanc. Votre première tarte a frappé juste. On trouve beaucoup. On trouve des pizzas chez Thomas Pynchon, des cailles rôties aux pommes de terre chez Carlo Emilio Gadda, beaucoup de saucisses chez Robert Walser. Il était. Voilà, je prépare une collection de saucisses walsériennes de Robert Walser.
C'est vrai, vous préparez ça?
En fait, je pense qu'on pourrait en faire quelque chose, parce qu'il est très souvent question de saucisse. Il a écrit un texte qui s'appelle d'ailleurs « La saucisse », qui est un texte très court et qui est magistral, qui est magnifique, d'humour et une sorte de métaphysique humoristique.
Je précise que plus près de nous, l'écrivain français Philippe Jaénada, vous connaissez certainement, oui, oui, s'est effaré au tout début de son roman « La petite femelle », de constater que tous ses livres parlent de saucisse, même parfois malgré lui. Un jour, il a tapé « saucisse » dans son moteur de recherche qui contient tous les fichiers de tous ses romans publiés depuis 1997, et la saucisse est présente à toutes les fois, donc il consacre 3-4 pages pour dire « je suis comme possédé par les saucisses ».
Ah ben voilà un lien entre Robert Walser et Philippe Jaénada.
Savez-vous qui a décidé un jour de faire de la tarte à la crème ce symbole universel du cinéma burlesque? Est-ce qu'on peut dater ou situer la première tarte à la crème de l'histoire du cinéma?
Alors je n'ai plus la date en tête, mais on l'attribue à un film muet évidemment dans lequel joue ce énorme comédien Fatty, c'est son surnom, Roscoe Fatty Arbuckle, qui aurait mis en scène la première tarte à la crème. Mais après quelques recherches, il s'avère qu'il ne l'ait pas lancé, mais qu'il l'ait reçu. Et que cette tarte aurait été lancée, alors si je me souviens bien, je crois que je l'ai écrit dans le livre, par Mabel Normand, qui était une grande comédienne aussi de l'époque. Donc la première tarte était une tarte féministe.
Parfait, magnifique. Alors justement, la tarte à la crème, écrivez-vous, est à la fois un projectile et un véhicule, peut-être le véhicule de certaines convictions. Peut-on se livrer à une lecture politique de l'entartage ? S'agit-il tout de même plus ou moins toujours d'entarter un plus puissant que soi, de résister à une domination, de ridiculiser le plus fort, le plus riche? C'est d'ailleurs les deux premières tartes non accidentelles du film de Laurel et Hardy, La bataille du siècle. Les deux premières tartes non accidentelles atteignent sciemment leur destinataire. Et ce destinataire, c'est un grand bourgeois en redingote et haute forme. Toutes les précédentes, en fait, sont lancées, mais elles ne touchent pas la personne qu'elles voulaient toucher.
Oui, parce qu'en général, dans ces films-là, les tartes touchent toujours la personne qu'on ne visait pas. C'est ça qui
c'est le gag.
C'est le gag, et ça perpétue ce mécanisme de la vengeance et du foisonnement. Alors, c'est vrai que de nos jours, on a plutôt tendance à politiser de cette façon la tarte à la crème. C'est via aussi les fameux entarteurs, les attentats pâtissiers de Noël Godin,
Jean-Pierre Bouixou. Belge.
Voilà, Jean-Pierre Bouixou, qui ont fait école d'ailleurs.
Les anarcho-pâtissiers.
Exactement. Alors, depuis, ils ont des disciples. Eux se sont un peu retirés des voitures, mais ils ont quelques disciples. Et j'ai entendu dire que... aux États-Unis, certains commettent des attentats pâtissiers à partir de tartes entièrement bio, et ils visaient en tout cas des banquiers de Wall Street, mais à partir de produits extrêmement bio. Donc voilà, il y avait une sorte de double gag de l'entartage et du raffinement dans la création. Mais cette vision politique est un petit peu la nôtre. Des comédiens comme Stan Laurel ou Buster Keaton se défiaient beaucoup de cette lecture-là politique, même si on ne peut pas s'empêcher de la faire quand on voit des policiers courir après un pauvre air dans les films burlesques. Ils s'en défiaient beaucoup, ils préféraient rappeler que leur idée c'était de faire des gags, rien que des gags, et de travailler avec le burlesque, avec l'humain, avec la chute des corps, avec des individus, et ne pas réduire eux-mêmes leurs films à des symboles simples, politiques, qui s'épuiseraient à leur regard assez rapidement. Voilà. Il faut s'en méfier, même si, effectivement, des gens comme Noël Godin on l'ont sublimé comme une forme presque cynique, au sens de Diogène du terme, de la bataille du petit contre le grand.
Gloup, gloup, entartons les pompeux cornichons.
La tête à tarte, par excellence, doit être arrogamment narcissique, doit se prendre tragiquement au sérieux et doit être très imbue de pouvoir, ce qui est le cas de la plupart de nos cibles. Comme je suis un très médiocre sportif, en balançant mes tartes, je pourrais rater la cible, même à moins d'un mètre. Ce qui fait que jamais je ne lance mes tartes, mais je les dépose directement sur le faciès de la victime pour être sûr de ne pas rater le coup. C'est une bonne règle. Une autre règle, c'est de ne jamais faire bobo physiquement à la victime, ne lui faire fort mal, oui, mais uniquement dans son ego surdimensionné, dans son amour propre.
Get on.
Des cerises sur le gâteau de l'album Diamonds and Pearls de Prince and the New Power Generation, c'était en 1991. À noter qu'il s'agit du dernier single du Kid de Minneapolis à avoir été numéro 1 des charts, délibérément Hot Saucisse, décrivant explicitement une partie de Jambes en l'air. La chanson, dont le titre fait allusion à la crème séminale issue des gonades masculines quand on les sollicite assez longtemps, aurait été composée, comme l'a expliqué Prince en 2004, alors que celui-ci se regarder dans le miroir. Je suis toujours en compagnie de l'écrivain Pierre Sange pour Projectiles au sens propre, publié aux éditions Verticales, son enquête sur les sens multiples qu'on peut accorder aux tartes à la crème qui furent jetées dans le court-métrage La bataille du siècle en 1927 avec Laurel et Hardy. Pierre Sange, à travers votre ouvrage, vous analysez et pratiquez vous-même un truc que j'adore, c'est le comique de répétition. Mais votre comique à vous se déploie souvent, dans ce livre et dans certains de vos ouvrages antérieurs, via de longues phrases érudites, gorgées de références, dans un style d'humour assez rentré, propre sur lui, réservé, jamais vulgaire, chic, absurde, presque anti-moderne, pour ne pas dire bêtement anglais. D'où vous vient cette tonalité ?
Je ne sais pas si je décide d'avoir cette tonalité, mais la phrase peut-être la décide pour moi. C'est vrai que prolonger une phrase jusqu'à son point de rupture, c'est peut-être un principe burlesque aussi, d'une certaine façon. C'est voilà, grimper l'immeuble jusqu'à ce qu'on se casse la figure ou courir jusqu'à ce que la chute survienne. Je prolonge la phrase pour essayer d'attendre d'elle qu'elle me dise quelque chose, qu'elle me dicte autre chose ou qu'elle m'oblige à aller ailleurs, à aller plus loin qu'une première idée qui me serait venue au cours d'une conversation ou au cours de l'écriture de façon plus simple. Il faut toujours se méfier des premières, des deuxièmes et des troisièmes premières idées pour s'obliger à aller un petit peu plus loin, pour fabriquer quelque chose. Et souvent, la phrase elle-même, par sa structure grammaticale, par les analogies qu'elle suggère, par les mots, les personnes, les personnages, les figures, les métaphores qu'elle convoque, va elle-même proposer des choses. Alors ensuite, le travail de réécriture est un travail de mise en forme de tout ce foisonnement, encore une fois, mais voilà, il suppose d'abord de laisser filer quelque chose, d'où ces phrases qui se prolongent un petit peu au-delà de la moyenne habituelle des livres, et peut-être de cet humour qui est temps de faire l'équilibre entre quelque chose de sérieux. Je propose quand même des hypothèses, mais ce sont des hypothèses un petit peu de café-théâtre, de musical. Je fais des hypothèses et en même temps, je fais le ventriloque, je fais la femme à barbe, j'essaie de jouer tous les rôles pour toujours éviter l'esprit de sérieux.
Ça me rappelle quelque chose, alors je vais m'avancer sur un terrain glissant, ça tombe bien, il y a une tarte à la crème dans la pièce. J'ai entendu dire que dans l'Antiquité grecque, il y avait une école de philosophie qu'on pourrait traduire à la hussarde par le sérieux marrant, c'est-à-dire un groupe de copains philosophes qui se réunissaient pour faire des démonstrations de choses absurde qui n'existait pas. Et je crois que Lucien de Samosat était connu pour être un des chefs de file de cette école de philo sérieuse, marrante.
Oui, ça me parle beaucoup, là. Lucien de Samosat, évidemment, et ses descendants plus proches de nous. Alors, peut-être que cette école, le nom de cette école est repris dans le titre d'un livre de Giorgio Manganelli qui s'intitule Hilario Tragedia. Je ne sais pas si ça fait écho,
peut-être.
Mais il semble que.
La tragédie hilarante.
Voilà, quelque chose comme ça, une sorte de tragédie drôle. Alors, mais effectivement, cette école-là. Fait écho et me dit quelque chose et fait écho tout à fait à ce genre d'esprit qu'on peut retrouver chez Lucien, chez Rabelais, plus tard chez Thomas de Quincey aussi. Alors lui, vous parliez d'humour anglais tout à l'heure, l'humour est encore plus encore moins visible, il est beaucoup plus rentré, c'est vraiment l'humour pince sans rire à l'anglaise, et ça me nourrit beaucoup parce qu'on peut c'est un véhicule le plus léger, plus agréable, et on peut proposer des choses tout en proposant aussi, en donnant aussi au lecteur les clés d'une contradiction, en prenant des précautions, des formules de style, en ne se donnant pas comme le vainqueur d'une démonstration qu'on aurait menée jusqu'au bout. Voilà, c'est surtout ça un petit peu l'écueil de toute écriture, de toute affirmation en général, c'est de se donner pour vainqueur, ce qui est vraiment un échec littéraire. Il faut se proposer des choses, mais toujours faire comme... Mais avec humour, comme Stephen Dedalus dans un des chapitres d'Ulysse, il fait une grande démonstration.
Ulysse de James Joyce.
De Joyce, oui, il fait dans une bibliothèque, il fait une grande démonstration sur Shakespeare et il démontre que voilà les liens entre Shakespeare, Hamlet, le fantôme, etc. Et à la fin, on lui demande mais vous croyez ce que vous dites? Et il répond non.
Comment est-ce que vous avez appris ça?
Je pense. Par la lecture de ces gens-là, Thomas de Quincey, Giorgio Manganelli, des gens comme ça, et par l'idée, le désir, l'envie de poursuivre le plaisir de la lecture par le plaisir de l'écriture, comme si, une fois qu'on avait épuisé les quelques livres de sa bibliothèque, on voudrait en écrire d'autres et les lire ensuite.
Nous allons donner à nos auditeurs un exemple de quelques-uns des 4000 sens que vous donnez aux tartes lancées par ou sur Laurel et Hardy dans leur film. Est-ce que vous pourriez nous lire la quatrième partie du catalogue des sens possibles qui figure dans votre ouvrage?
Avec plaisir.
Nova Book Box, une jukebox littéraire de Radio Nova.
Une tarte stade du miroir, une tarte de fond de teint brutal, une tarte à quoi se comparent les autres, une tarte de ralliement au panache blanc, une tarte d'esprit de contradiction, une tarte de répartie fine, une tarte de Vitz façon Hôtel Algonquin, une tarte de chevalier de la table ronde, une tarte de dernière chance et de dernier avertissement, une tarte Vatou, une tarte coup de sonde et tâtonnement lointain, une tarte d'offrande maladroite, une tarte d'enthousiasme excessif, une tarte péchant par optimisme, une tarte de mauvaise foi assumée en tremblant, une tarte sacrifiée pour voir, une tarte d'hypothèse par l'absurde, une tarte d'antithèse et de réponse, une tarte de conciliation pire que le conflit, une tarte de dernière extrémité, une tarte de geste déplacé, une tarte regrettée aussitôt, une tarte excédant la pensée, une tarte de l'art d'avoir toujours raison, une tarte d'argument du troisième homme, une tarte de sidération partagée, une tarte deus ex machina, une tarte de respect mutuel, une tarte de gentleman, une tarte de l'incident clos, une tarte de modeste participation, une tarte de dignité face à l'affront, une tarte venue de loin, une autre de plus loin encore, véhicule d'une amertume immémoriale, une tarte dont l'explication se trouve sans doute ailleurs et attend qu'on la trouve, une tarte de mémoire de toutes les tartes tombées pour rien, une tarte de la recherche du mot juste au beau milieu d'un champ de bataille et une tarte suggérée en l'absence de consensus.
Je commence à avoir faim.
Putain, où sont mes lunettes? J'ai encore perdu mes lunettes. Est-ce que quelqu'un pourrait lire pour moi?
Thank you. peu de crème dans ta vie. Un petit pot de crème aujourd'hui pour toi. Pour moi aussi comme ça, c'est ça, on pourra peut-être à l'abri. Enfin savoir qui de lui ou moi a. Un petit peu de crème dans la vie, ça fait pas de mal, j'ai envie de toi. Et toi aussi comme ça, c'est bien, on pourra peut-être, tu veux bien, dans notre cachette, demander enfin. Oh, à quoi ça tient? Pourquoi on revient? Pourquoi c'est bien? Et qu'est-ce qui nous retient? Pourquoi? Je sais pas. Et puis ce bruit dans Paris qui me dit que c'est plus par ici que ça se passe. J'avoue, je sais plus très bien ce qui se passe à la terrasse, je m'ennuie. J'ai pas vraiment réussi des masses. Non. Un petit peu de crème, je t'en prie, parce que ça me brûle quand tu me dis qu'il passe. Ça brûle, je ne me sens pas très bien. Donne-moi un peu, tu veux bien. C'est douloureux de toucher ta main. Oh, à quoi ça tient? Pourquoi on revient? Pourquoi c'est bien? Mais qu'est-ce qui nous retient? Pourquoi?
Un petit peu de crème, ça fait pas de mal. Les choses de la vie, finalement, résumées par Mathieu Bouguerts sur son album Michel en 2005.
Nova Pookbox, parfois une page suffit.
Je suis toujours en compagnie de l'écrivain Pierre Sange pour parler notamment de son livre Projectile au sens propre, enquête sur le sens caché, secret des 4000 tartes à la crème qui furent jetées pour les besoins du film La bataille du siècle. En 1927, avec Laurel et Hardy. Pierre, je le vois, vous n'osez pas toucher à la tarte à la crème qui se trouve, je le rappelle, au centre de notre studio depuis le début de l'émission pour d'éventuels gags. Est-ce la peur, le manque d'appétit ou peut-être êtes-vous en train de fomenter un mauvais coup?
Je fomente toujours. Donc je me contente de regarder cette tarte, de la voir foisonner toute seule.
La crème coule. Pierre, votre livre contient une révélation qui m'a beaucoup étonné au point de douter de sa véracité. La crème chantilly a été inventée en prison par un certain Nicolas Fouquet, fruit de la conspiration, de la méditation et de l'ennui, succès de la solitude, de la répétition, de l'acharnement. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de la crème chantilly en zonzon? On peut cuisiner en prison?
Fouquet pouvait. Alors, on attribue souvent l'invention de la crème chantilly à Vatel, le cuisinier, mais je propose autre chose. Voilà, encore une hypothèse. On en prend, on en laisse. C'est un petit peu comme la crème. Voilà, il se trouve que j'avais eu un peu à travailler pour des fictions radio, des pièces de théâtre autour de ce personnage extraordinaire de Fouquet.
Rappelez un peu de qui il s'agit.
Alors, surintendant des finances de Louis XIV, hein, un jeune homme très brillant du XVIIe siècle, qui est monté très vite, trop vite peut-être, et qui a voulu un petit peu en mettre plein la vue à ce balourd de Louis XIV. Et il a construit ce château à Vaux-le-Vicomte, magnifique. Et c'est un petit peu Fouquet qui est le promoteur de toute cette culture. Molière, La Fontaine, Le Nôtre, voilà, les jardins d'architecture. C'est quelqu'un de fortuné, parce que en tant que surintendant des finances, il a pu se mettre un petit peu d'argent de côté. Et en mêlant l'argent public et l'argent privé, c'est ce qu'on lui a reproché par la suite. Fortuné, mais avec un certain bon goût. Et tout ce qu'a fait Louis XIV par la suite, c'était de reprendre un petit peu ses indications. C'était le jeune Louis XIV à l'époque, de le suivre sur le terrain, en tout cas, esthétique, qu'il avait un peu inspiré. Mais ce Fouquet est allé trop loin. Il a fait une immense fête à Vaux-le-Vicomte, feu d'artifice, pièces de Molière. Et le roi ne lui a pas pardonné. Et avec son ministre Colbert, il a, au bout d'une longue machination, en partie reposant sur des actes sans doute vrais de Fouquet, de se mettre de l'argent de côté, mais qui ne le faisait pas, mon bon monsieur, à l'époque, et en partie à partir de fausses lettres, ou de dénonciations absurdes et de calomnies, et d'une espèce de machine du roi absolu, de la monarchie absolue, une machine à broyer quelqu'un qui se croyait pouvoir agir de ses propres ailes, voilà, a jeté Nicolas Fouquet en prison, et Fouquet, le jeune Fouquet, l'optimiste Fouquet, le rayonnant Fouquet, est mort en prison après avoir été arrêté par D'Artagnan, ce qui n'est pas rien. Voilà, ça rajoute un petit peu à la couleur romanesque du personnage. Et moi, je ne voulais pas laisser ce Fouquet tout seul à s'ennuyer, à lire la Bible dans sa prison. Donc je lui ai donné une dernière chance, c'était d'inventer la crème chantilly.
Mais c'est pas vrai.
Ce n'est vrai qu'à l'intérieur des pages de ce livre.
Quand on qualifie quelque chose de tarte à la crème, on se plaint d'une formule rebattue, vidée de son sens pour avoir été répétée à tout propos. L'expression nous viendrait, je crois, d'une pièce de Molière, L'école des femmes. Quel est le dernier roman tarte à la crème que vous ayez lu ?
Ah, ça, c'est la deuxième tarte que je reçois.
Ouais.
Est-ce que j'ai droit à un joker ?
Eh bien non.
Non. Un roman tarte à la crème, avec des idées rebattues. Il y en a tant. Il y en a tant que d'ailleurs, en général, on les laisse tomber au bout de la troisième page. Par quoi j'aurais été très déçu, par exemple ? C'est difficile à dire.
Autre manière de vous poser la question, si vous pouviez jeter une tarte à la crème au visage d'un auteur mort ou vivant, à qui le feriez-vous et pourquoi ?
Alors via par exemple Simon Leys, je jetterais des tartes à la crème à André Malraux. Je crois que Simon Leys l'appelait la Compagnie internationale des lieux communs. Voilà, donc voilà, c'était une tarte à la crème lancée à la figure de Malraux, c'est pas mal.
Y compris pour la condition humaine ?
Oui, oui, je me doute qu'il se méfie un petit peu de tous ces écrivains-là. Et via Nabokov aussi, on pourrait lancer des tartes à la crème à tous ceux qui aiment par-dessus tout, voilà, ce dont on parlait tout à l'heure, hein, ces romans engagés, mais au premier degré et bêtement ou frontalement sociopolitiques, qui supposent que le roman, la narration, l'art d'écrire se résume à être une mise en scène plus ou moins pato d'une situation que tout le monde a bien comprise, c'est-à-dire voilà, une situation économique mondiale ou politique actuelle ou voilà, tenant lieu de la conjecture. Voilà, ce genre d'approche littéraire mérite des tartes à la crème. Oui.
Pensez à quelqu'un ?
Alors Nabokov, lui, pensait à tous ces auteurs de l'époque qui écrivaient des livres engagés, à message, et lui détestait ça, venant d'un monde, ayant quitté et ayant été chassé d'un monde soviétique où la littérature à message était une littérature mortifère. Il ne voulait pas retrouver cette mort ou cette morbidité-là dans le monde libre, ça lui semblait doublement absurde.
Casson, je vous dis que Buster Keaton connaissait 100 façons de recevoir une tarte à la crème ou de l'esquiver. C'est tiré d'une authentique interview ?
Non. Ça, quelque chose que j'attribue à Buster Keaton, mais qu'il aurait pu très bien dire. C'est tellement vraisemblable que ça en devient vrai.
100 façons de recevoir une tarte à la crème, 100 mais pas 111 ?
J'ai dû dissimuler ici ou là peut-être le chiffre 111, je ne sais pas si ça a été vu, et peut-être que ça a été coupé aussi au montage et à la correction, mais il me semble que le chiffre kabbalistique 111 qui poursuit tout le monde, y compris Buster Keaton, doit être présent quelque part.
Je rappelle que vous avez reçu il y a 5 ans dans cette émission, sur cette antenne, sur Radio Nova, le prestigieux prix de la page 111 qui a changé votre vie, qui récompense ce prix, je le rappelle aussi, chaque année, la meilleure page 111 de la rentrée littéraire francophone, considérée comme une œuvre d'art à part entière, du premier au dernier mot, comme si rien d'autre n'avait été écrit. C'était pour votre roman Akab Sekel, suite fort inventive de Moby Dick qui pariait que le capitaine Akab avait bel et bien survécu à sa rencontre avec la baleine blanche. Vous imaginez bien, mon cher Pierre, qu'en raison de mon fétichisme numérologique, je suis allé examiner la page 111 de votre dernier livre, Projectile au sens propre. Et qu'est-ce que j'y ai trouvé, à votre avis ?
Une tarte à la crème ?
Non.
Une liste ? Un
non.
catalogue ?
Une image poétique tout à fait troublante à lire dans la sinistre France masquée des protocoles de sécurité sanitaire. Cette image est la suivante. L'école du visage reflétée dans la cendre.
Ah oui, j'avais oublié ça, effectivement.
Que vouliez-vous nous dire, ô baladin ?
Ça, c'est le nom d'une école bouddhiste, évidemment inventée, mais je l'espère assez exacte, dans l'un ou l'autre des univers parallèles qui nous entourent. Cette phrase doit être vraie quelque part, et ce monastère du visage reflété dans la cendre doit exister quelque part. La littérature bouddhiste ou ce qu'on en connaît en Europe à travers ces traductions est toujours assez friande de ces métaphores ou de ces épologues très mystérieux qui nous éloignent de la réalité ou de l'expression directe et par des longs détours essayent de nous faire approcher une réalité plus obscure. Et j'imaginais qu'un visage reflété dans la cendre ou le reflet de cette cendre elle-même pouvait ressembler à cette espèce d'ineffable après quoi on court parfois, tout en respectant le visage.
Peu de temps après, page 120, le trouble se poursuit. Une idée commence à prendre corps dans mon esprit. Si on en croit une déclaration hors micro non vérifiée de Stan Laurel, toute tarte à la crème peut ou doit être considérée comme un masque mortuaire à prise ultra rapide. Page 124, il y a une note de bas de page qui verrouille ma certitude. Ils ont l'air de s'amuser. En vérité, ils prévoient l'avenir. Ils lèguent l'empreinte de leur visage aux curieux nés bien longtemps après eux. Pierre Sange, deux questions que le destin me somme de vous poser. Avez-vous, au moment d'écrire ce livre, prévisualisé notre avenir de masque imposé ? Et remarque plus goûtue, devrions-nous, dès maintenant, conseiller à nos auditeurs et auditrices de se cuisiner des masques sanitaires à base de crème chantilly ? Miam, miam.
La réponse est oui pour les deux questions. Oui. Comme disait Saint-Gria, Charles-Albert Saint-Gria, cet écrivain suisse du XXe siècle, on est prophète ou on ne l'est pas. En général, on ne l'est pas. mais en comptant encore une fois sur la probabilité, une phrase sur mille est prophétique, donc vous êtes tombé sur les trois phrases prophétiques, sur les 3000 que j'ai pu écrire, qui sont rassemblées dans ce livre avec un sens de l'intuition et de oraculaire extraordinaire.
Jukebox. Jukebox littéraire de Radio Nova. I grew up on the crime side, the New York Times side. Staying alive was no job, had second hands. Moms bounced on old men. So then we moved to Shaolin Land. A young dude, you're rocking the gold tooth. Low goose, only way I begin to G-York was drug loot. And let's start it like this, son. Rolling with this one and that one. Pulling out gats for fun. But it was just a dream for the team who was a fiend. Started smoking wools at 16. And running up in gates and doing hits for high stakes. Making my way on fire skates. No question, I was speed for cracks and weed. The combination made my eyes bleed. No question, I would flow off and try to get the dough off. Sticking up white boys on board. My life got no better. Same damn low sweater. Times is rough and tough like leather. Figured out I went the wrong route. So I got with a sick ass click and went all out. Catching keys from cross seas. Rolling in MPVs. Every week we make 40 G's. Yo, nigga, respect my a nigga to Tech Notch. Bow. Move from the gate now.
Cash moves everything around me. Green, get the money. Dollar, dollar bill, yo. Cash moves everything around me. Dollar bill, yo.
It's been 22 long, hard years, I'm still struggling. Survival got me bugging, but I'm alive on arrival. I beat back the shape of the streets to stay awake to the ways of the world, cause shit is deep. A man with a dream, with plans to make cream, which fail. I went to jail at the age of 15, a young buck selling drugs and such, who never had much, trying to get a clutch on what I could not. The court played me short, now I face incarceration. Pacing, going upstate's my destination. Handcuffed in back of a bus. Life as a shorty shouldn't be so rough. But as the world turned,
giving chase, selling bass, smoking bones in the staircase. Though I don't know why I chose to smoke cess, I guess that's the time when I'm not depressed. But I'm still depressed, and I ask, what's it worth? Ready to give up, so I seek the old earth, who explain working hard may help you maintain, to learn to overcome the heartaches and pain. You got stick up kids, corrupt cops, and crack rocks, and straight shots, all on a block that stays hot. Leave it up to me while I be living proof, to kick the truth to the young black youth. The shorties running wild, smoking cess, drinking beer, and ain't trying to hear what I'm kicking in his ear. Neglect it for now, but yo, it got to be accepted, that what? The life is hectic.
C'est le Wu-Tang Clan sur ce titre issu de l'album culte Enter the 36 Chamber, paru en 1994. Ici, CREAM est l'acronyme de Cash Rules Everything Around Me. Depuis, le terme est devenu synonyme en argot américain d'argent. Merci Mikey Mike Lee au Dirty pour le tuyau. L'écrivain français My Man Pierre Sange est toujours avec nous dans le studio de la Nova Book Box.
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Pendant le confinement, pendant ces deux mois de confinement, on a pu entendre sur France Culture votre adaptation des aventures de Tom Sawyer et Huckleberry Finn d'après Mark Twain. Pour cette France déconfinée, qui ne sait pas encore très bien si elle doit, si elle peut partir en vacances, si elle doit continuer à suivre des cours à distance, avez-vous, Pierre Sange, des conseils en matière d'école buissonnière ?
Oui, relire Mark Twain, ça c'est extraordinaire. Hein. On parlait d'humour tout à l'heure, l'humour de Mark Twain via Tom Sawyer et via Huckleberry Finn est extraordinaire. Et la description, par exemple, de l'Europe par Tom Sawyer en imaginant des rois de partout. Il dit à Huckleberry Finn, si tu vas en Europe, des rois, t'en auras de partout. Et que font les rois ? Oh, mais ils font rien toute la journée. Ils vont à la chasse, ils boivent dans des calices d'or. Ils gagnent $1 par jour. Voilà. Et c'est cette description à la fois très moqueuse d'une royauté européenne et très tendre, parce que c'est à travers aussi une naïveté d'enfants pauvres. C'est tout le sel ou le piment ou la tarte à la crème de Mark Twain.
Pourriez-vous nous conseiller d'aller vivre dans les bois ?
Ah, oui, c'est une supposition, à condition d'avoir un distributeur de tartes
à proximité
ou à intervalles réguliers.
Pour pouvoir se défendre en cas d'irruption d'un fâcheux.
Exactement, il y a des fâcheux, pas derrière tous les arbres, mais presque. Chaque arbre cache son fâcheux.
C'est un aphorisme qui vous survivra, je pense. Comment avez-vous vécu ces deux mois de confinement ? Avez-vous écrit plus ou moins que d'habitude ?
Hélas, j'ai écrit plus. Je suis plutôt déjà du genre graphomane, donc j'ai écrit davantage. J'ai dû faire des travaux pour agrandir mes tiroirs. Donc le travail de destruction des brouillons inutiles va être encore plus long. Mais oui, la vie de confiné de l'auteur, c'est confirmé. C'est un confinement confirmé. Et j'ai poursuivi un petit peu ce que je faisais d'habitude en travaillant en menant mes travaux divers et variés d'écriture, soit pour moi-même, soit pour des travaux de commande, pour le spectacle vivant qui reprendra bientôt, j'espère. Voilà, en étant un petit peu plus casanier que d'habitude.
Sur quel sujet, si c'est pas indiscret ?
Il y a des projets de spectacles pour l'année prochaine. Une réécriture, par exemple, d'un livret d'un opéra qui était composé à la fin du XVIIIe siècle, d'un livret de Soden qui a un peu vieilli. Donc on a gardé les chansons, on garde la musique évidemment, de Grétry. Et on m'a demandé de réécrire entièrement les dialogues. Voilà, en les secouant un peu, en gardant la trame, mais en secouant les dialogues, en y ajoutant un petit peu de, voilà, un petit peu de Lubitsch. Voilà, c'est une sorte de 18e siècle Lubitschisé, si tant est que c'est possible. Voilà, d'autres projets de spectacles. Un qui va s'intituler Les Monstres ou les Monstres saison 2, quelque chose comme ça, qui reprend un petit peu le dispositif des Monstres de Dino Risi. Ça va être un spectacle.
Un film à sketch.
Voilà. Voilà,
ça va être... qui de mémoire, restitue en plein de petits chapitres la veulerie, la bêtise humaine.
Voilà, toutes les monstruosités grandes ou petites ou mesquines, voilà, du peuple italien vu par Dino Risi et interprété par Gassman. Et à notre échelle modeste, on veut faire un petit peu la même chose, une série de petits sketchs musicaux avec un quatuor de saxhorn et puis des percussions, des chanteurs, etc. Qui devrait voir le jour l'année prochaine. Et un travail de commande. Alors là, pour l'édition Vagabonde, présidée par le capitaine Benoît Laudier, vont rééditer L'art de naviguer d'Antonio de Guevara, un autre livre très drôle et pince sans rire. Antonio de Guevara, au tout début du XVIe siècle, fait une sorte d'éloge de la vie sur la galère. Finalement, vivre sur une galère, c'est très bien.
C'est pas si galère.
Non, voilà, on mange à des heures fixes, on n'est pas obligé d'aller à la messe, voilà, des choses comme ça. Et on m'a demandé d'écrire une postface qui va être une sorte de d'art de faire naufrage, voilà, l'éloge du naufrage, alors via Falstaff, qui était un maître du naufrage, une fois qu'on l'a jeté dans la Tamise. On évoque aussi Néron et les tentatives de naufrage d'Agrippine, voilà, des figures comme ça.
Avant que cette émission ne fasse naufrage, cher Pierre, auriez-vous, par hasard, une utopie de poche à partager avec nous? Quelque chose qui pourrait changer dans la société à venir, une idée fertile pour des futurs désirables tels qu'elles sont exposées chaque matin dans la matinale de Radio Nova via le podcast L'Arche de Nova.
Pour préparer un futur plus désirable, si tant est que c'est possible, je propose une petite utopie de poche ou de livre de poche inspiré par un auteur russe, au nom évidemment difficilement prononçable, c'est Vladislav Otrochenko. Qui a découvert ou redécouvert ou inventé un peuple d'après Babel qui s'appelle les Yurungund. Et ce peuple a une langue très étrange. Alors les différents peuples que Otrochenko invente sont différentes langues, sont notables par les langues différentes qu'il parle. Et ce peuple-là, les Yurungund, parle une langue très particulière. C'est une langue dont chaque mot prononcé ne signifie absolument rien. Ce n'est que du bruit, c'est qu'une suite de syllabes dénuées de sens, du balbutiement, du bégaiement, du bruit. Et la signification de chaque phrase tient dans les silences entre chaque mot. Plus ou moins long, plus ou moins pesant, plus ou moins haché, une sorte de code morse du silence. Donc vous pouvez dire n'importe quoi, ce qui compte c'est la pause entre deux paroles. Je trouve cette idée très belle. Et en ces temps où... Pour reprendre un peu la phrase de Karl Kraus, vous savez, ce grand orateur, ce grand pamphlétaire du début du XXe siècle qui faisait de grandes conférences très hargneuses, très moqueuses, très tartes à la crème. Il envoyait des tartes à la crème sur toutes les figures absurdes de son époque, et les figures détestables. Il écrit une grande pièce contre le nazisme à venir. Et Karl Kraus a été rendu pratiquement muet par l'avènement de la Première Guerre mondiale. C'est un événement si détestable, si violent, et si va-t-en-guerre, et si patriotard, que ça lui a coupé la chic. Et quand, au bout de quelques semaines, il a repris la parole dans son journal, il a expliqué un petit peu son silence. Il a dit « Maintenant que plus personne n'a rien à dire parce que seuls les actes ont la parole, on n'arrête pas de parler. Moi, je propose que ceux qui ont quelque chose à dire, s'avancent et se taisent. » Alors souvent, on se souvient que de la deuxième partie de la phrase de Karl Kraus, « Ceux qui ont quelque chose à dire, s'avancent et se taisent. » Mais même isolé de son contexte, cette phrase est intéressante, parce qu'en des temps où, effectivement, on n'arrête pas de parler, on nous annonce déjà des livres sur le coronavirus, à la rentrée prochaine. On interroge sans cesse et tout le monde a des avis sur tout. Et ceux qui parlaient avant ont parlé pendant et parleront après et donneront des avis éclairés sur toute chose. Je propose pour ces gens-là et pour nous autres aussi d'adopter pendant un moment la langue des Yurungund, à savoir une langue qui n'a de sens que si on se tait.
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Avant de se quitter, Pierre Sange, une ultime question.
Je vous écoute.
Qu'allons-nous faire de cette tarte à la crème, celle qui est entre nous depuis une heure maintenant?
Je vais vous faire une proposition, puisqu'elle est en train de vieillir, même de minute en minute, et de prendre une certaine épaisseur, une épaisseur de plâtre. Je propose de s'incliner devant chaque part de tarte, d'y enfoncer notre visage et d'y laisser une empreinte éternelle que nos descendants viendront admirer dans quelques milliers d'années comme l'empreinte de quelques Cro-Magnons égarés quelque part.
Ou comme les mains des acteurs et actrices de Hollywood Boulevard, peut-être les mains de Laurel et Hardy.
Exactement. On peut y tremper nos pieds ou nos mains, effectivement, à la place de nos visages. Ça serait peut-être plus prudent.
Merci beaucoup, Pierre Sange.
Merci à vous.
L'émission d'aujourd'hui a été réalisée par Sullivan Clabeau, programmation musicale Michaelio, merci à eux. La semaine prochaine, je crois, je ne suis pas encore tout à fait sûr, mais c'est en bonne voie, je crois qu'on se penchera ensemble sur une salve de critiques de cinoche, de chroniques ludiques et de lettres inédites signées par l'un des maîtres du polar français des années 80, Jean-Patrick Manchette, l'auteur de Fatal, de Griffu ou de La position du tireur couché. Le genre de type qui écrivait « Tiens, tiens ». Je n'ai pas vu Pipi Caca Dodo parce que Marco Ferreri, son réalisateur, est un emmerdeur. Et allez donc, ça c'est de la critique. Que peut-on attendre d'un type qui, ayant reçu quelques instants après sa palme d'or une tarte à la crème anonyme, n'a jamais compris pourquoi? Bref, on se retrouve la semaine prochaine pour plusieurs couches de gouaille. Et après vous avoir parlé de tant de sucreries, je vais aller manger un bout. Mais avant cela, si vous permettez, j'ai un message personnel. Elle a exercé la profession d'infirmière dans un EHPAD de Moselle, avant de changer récemment de métier pour accompagner les enfants handicapés d'une école près de Metz, à Borny. Elle tirait, je cite, « de grandes satisfactions de cette activité, tout en soulignant que le handicap majeur dont souffraient les mômes dont elle s'occupait, c'était la discrimination sociale. Nous nous écrivions de temps à autre, c'était une auditrice extraordinairement attentive de l'émission qu'elle avait découverte grâce à son frère. En octobre dernier, elle était venue à Paris pour assister à la remise du prix de la page 111. Et d'abord très timide, elle avait fini par sympathiser avec l'équipe, restant danser avec nous dans la cale irrésistible de la péniche La Grande Fantaisie, avant de repartir à l'aube par le premier train pour démarrer son service. Elle aimait, je cite encore, « ne pas suivre le rang, se questionner, remettre en question ». Elle était née le même jour qu'Alejandro Jodorowsky, un 17 février, il y a 28 ans. Elle adorait les œuvres de ce poète et cinéaste chilien, en particulier son documentaire « Psychomagie, un art pour guérir », sorti en octobre. Pour la première fois de sa vie, disait-elle, un film l'avait fait rire et en même temps tout aussi intensément pleurer, ce qui n'avait pas manqué de l'étonner. La connaissance était pour elle un vecteur d'émancipation. Elle lisait des recueils de pensées taoïstes et se réjouissait de voir Catherine en concert fin avril, près de l'école où elle travaillait. Pour des raisons que j'ignore, mais qui me peinent beaucoup, Christelle G. a choisi de mettre fin à ses jours. C'était il y a quelques semaines. Je pense à elle, à sa fille, à sa famille. Cette émission lui est dédiée. À tous les autres, prenez soin de vous. Et rendez-vous dimanche prochain. Comme disait Jodorowsky, d'une peau de tigre accrochée au mur, nous ferons des tigres.
Nova Book Box. Le jukebox littéraire de Radio Nova.